Salut à tous et bienvenue dans le 19e épisode de la saison 7 de Vue du Banc, un épisode sur lequel on va revenir en détail sur les chocs du week-end, les grands matchs qu'il y a eu en Angleterre entre Liverpool et Manchester United, en Italie entre l'Inter et la Juventus et aussi la Supercoupe d'Espagne avec le match entre le Barça et l'Athletic Bilbao de Marcelino. Mais tout ça, ça va être avec mes deux collègues Raphaël et Christophe qui vont nous rejoindre dans quelques secondes. Mais avant, petit message promotionnel concernant notre nouveau projet, notre nouvelle application Coparena, disponible sur les stores, Apple Store ou Play Store, avec le petit programme de la semaine, simplement sur Coparena. Dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver une nouvelle interview, celle de Ludovic Butel, gardien de but d'Angers, qui nous explique les spécificités du poste d'Angers, et nous parle aussi cœur de Belin en fin d'émission. Vous verrez exactement ce qu'il en retourne en écoutant. Plus tard dans la semaine, vous aurez le quatrième épisode de Première Fois, un épisode dédié à Jérémy Ménez, quatrième membre du quatuor fantastique de la génération 87. Et ensuite, côté article, vous retrouverez le banquet tactique de Christophe, un focus de Raphaël sur l'Athletic Bilbao de Marcelino, et enfin un dernier article vendredi qui pourrait être une petite analyse du Lens Marseille qui nous attend en milieu de semaine. Voilà, tout ça c'est sur Coparena, inscription coparena.com, abonnement 3,99€ par mois et téléchargeable sur les stores. Mais tout de suite, c'est Vue du Banc.
Vue du Banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr.
Et nous voilà donc partis pour ce 19e épisode de la saison. Salut Raphaël.
Salut Florent.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien. Beaucoup de choses à dire ce week-end en espérant que les travaux de mes voisins me laissent tranquille.
Oui, on les entend un petit peu d'ailleurs, il me semble. Et Christophe, est-ce que ça va?
Bah ça va pas mal Florent, je n'étais pas là puisque j'étais au travail pour voir tous les matchs dont on va parler. Donc je me suis tout fait en replay jusqu'à 4h et quelques du matin et également à midi. Donc j'ai tout bien en tête, tout est très frais.
Et donc tu es prêt pour nous parler, on va commencer avec toi, de ce match entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Il y avait plusieurs matchs ce week-end qui étaient possiblement justement les matchs du week-end, le gros match du week-end, et finalement avec la déception entre Liverpool et Manchester United, sur lequel on reviendra plus tard, c'est cette Inter-Juve qui s'est révélé être le choc à ne pas manquer et qui n'a finalement pas déçu, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir dans cette rencontre.
Ouais, beaucoup de choses à voir. On va essayer de parler de plus de points possibles. Donc je vais commencer de manière assez générale, essayer de pas faire trop long. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir pas mal de choses. Mais en fait, sur la physionomie globale de la rencontre, et en fait, ce qui a fait que c'était un match intéressant, pour moi, c'est finalement la volonté de la Juve de presser, parce que c'est ça qui conditionne un peu tout, dans la mesure où si la Juve attend, je ne sais pas si l'Inter aurait été capable de faire tant de différence. Alors bien sûr, il y a le duo d'attaque, il y a notamment Lukaku, qui est quand même sur une forme assez exceptionnelle en ce moment. Du coup, tu peux te dire que ça peut être un choix assez assumé finalement de pas laisser Lukaku arriver, on va dire, pas laisser la balle remonter tranquillement et à laisser Lukaku à 25 mètres de ton but, parce que ça peut être embêtant. Mais le fait que la Juve presse beaucoup fait qu'il y a pu avoir ce rapport de force un peu 50-50, à savoir que l'Inter qui cherche à relancer court, bah, en gros, t'avais le truc, si les relances sont ratées, si la balle est perdue, ça fait occasion pour la Juve, et si le pressing est cassé, ça fait occasion pour l'Inter. Or, là, le pressing a été quasiment tout le temps cassé. Alors, au sol, généralement, mais t'as eu aussi 2-3 passes longues, notamment sur le deuxième but, avec une passe longue de Bastoni. Il y a eu aussi 2-3 relances un petit peu longues d'Andanovic. Alors, toutes n'ont pas forcément abouti, hein, sinon le score aurait été bien plus élevé. Mais pour moi, c'est vraiment la hauteur de bloc de la Juve, et cette volonté de presser, qui est d'ailleurs, enfin, c'est pas la première fois qu'on le dit et qu'on le voit, mais qui est beaucoup plus prégnante dans cette équipe version Pirlo qu'elle ne l'était avec Sarri, alors que Sarri l'an dernier, on l'imaginait pouvoir installer ce pressing assez haut. C'était vraiment intéressant, et c'est autant lié à la capacité, enfin la réussite du plan de l'Inter, autant lié à la capacité et à l'habitude de cette équipe de justement avoir ses circuits dans son propre camp pour se sortir de la pression. Et aussi, j'ai trouvé un pressing assez maladroit, assez moyen de la part de la Juve, qui ne savait pas exactement dans quelle zone aller.
Mais justement, Raphaël, avant de rentrer dans le détail sur ce pressing, Christophe a déjà annoncé un petit peu tous les points qu'on va développer. On va commencer par les compos, avec une compo turinoise avec la symétrie, enfin le système double, avec 3-5-2 sans le ballon et 4-4-2 en phase défensive. Alors le 4-4-2, c'était Chesney dans les buts, Danilo, Chiellini, Bonucci et Frabotta à gauche, Chiesa qui se retrouvait à droite, Bentancur, Rabiot, Ramsey et Morata, Cristiano devant, et en possession du ballon, on passait à 3 derrière avec Danilo, Chiellini, Bonucci. Danilo, Bonucci, Chiellini, pardon. Frabotta qui montait piston gauche, Chiesa qui était piston droit, les trois milieux Bentancur, Rabiot, Ramsey, et en face et devant Morata et Cristiano.
Ouais, c'était ça, et je pense qu'il faut retenir dans ce système-là, et on pourra parler après du système de l'Inter qui était aussi un 3-5-2, mais aussi bien en phase défensive qu'en phase offensive, c'est la déconnexion entre les deux attaquants, Morata, Ronaldo, et le reste du jeu turinois, et je pense que c'est une des données importantes de cette rencontre. Christophe parlait du niveau de Lukaku et du niveau du jeu d'attaque de l'Inter, et on n'a pas senti du côté de la Juve, et c'est normal parce que ça fait pas tellement longtemps qu'ils jouent ensemble, même s'il y a dû avoir un moment au Real et où ils ont dû se côtoyer, même s'il me semble que Morata, quand le Real est champion, joue les matchs limite avec une compo de B du Real, et que Ronaldo joue les gros matchs. Il y avait tout un système comme ça quand Zidane est champion la première fois en Espagne. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de voir la différence entre ce que t'apporte Lukaku et Lautaro dans le jeu, et parce que peut-être tu as organisé le jeu et tu l'as créé pour que ces deux-là fonctionnent bien, et du côté de la Juve, où tu savais pas vraiment comment te connecter avec Morata et Ronaldo, pour des raisons assez simples. D'abord que Ronaldo n'est plus forcément un joueur avec lequel le jeu se connecte. Là, il y a quelques séquences où il a décroché, où il a reçu des ballons entre les lignes, essayé de remettre en une touche, mais il n'est pas capable de faire ce que proposent les attaquants de l'Inter en face dans le déplacement, dans le mouvement, en tout cas dans la participation au jeu avant d'être dans la surface. Et Morata aurait pu devenir cet attaquant complet, quand on l'a vu démarrer à la Juve notamment et qu'il a explosé là-bas. Il ne l'est pas devenu, et là on a vu une Juve un peu limitée, parce qu'elle arrivait à toucher ses milieux à Bentancur, Rabiot et Ramsey. D'ailleurs, l'Inter n'allait pas presser haut, c'était plutôt un bloc médian. Donc après, tu avais le temps d'essayer de claquer des passes verticales, mais ça a surtout tourné entre Frabotta et surtout Chiesa, côté droit, qui était plus offensif, sans arriver à trouver Morata et Ronaldo. Je n'ai pas la stat devant les yeux là de ballon touché du côté de ces deux attaquants-là, mais déjà une stat qui m'étonne, par rapport au fait que la Juve pressait et que l'Inter ne pressait pas tellement haut, c'est que la possession est quasiment égale. Et ça, c'est un premier problème, et que l'Inter tire deux fois plus. Ça, c'est quand même deux choses qui sont rares quand une équipe va presser très haut. En général, elle finit par avoir la possession ou par exploser complètement. Là, la Juve a pressé haut, n'a pas réussi à récupérer haut, donc a laissé des temps de possession à l'Inter, qui derrière a pu avancer. Et quand elle a eu le ballon, la Juve, par contre, face à cette équipe en bloc médian, on n'a pas su comment utiliser Morata et Ronaldo pour justement créer des décalages, mettre de la vitesse dans le jeu, changer de rythme. Il n'y a pas eu tout ça, et j'avais trouvé cette stat de passe: Ronaldo touche 24 ballons, Morata en touche 17, et les deux font le match entier, ce qui est très, enfin en tout cas ils font 24 passes et 17 passes, ce qui est peu, et je pense dans des zones en plus pas tellement dangereuses.
Après, il y a quelque chose, Christophe, qui m'a marqué dans le match, au-delà de la manière de défendre de l'Inter, qui avec son on va dire en gros son 5+3 ou même son 3+2 devant, a quand même pas mal de joueurs pour fermer l'axe et couper les lignes de passe justement à destination des attaquants. Mais ce qui m'a marqué côté Juve, c'est cette construction où les positions sont plutôt bien respectées. C'est-à-dire généralement quand on va voir une grosse équipe, on va souvent voir une structure qui va se déformer un petit peu, des joueurs qui ne vont pas forcément occuper tous les espaces demandé par le jeu, parce que bah, y a une individualité ou deux qui va réussir à faire une différence à un moment donné. Et là, en fait, sur ce match, j'ai eu l'impression de voir une Juve très scolaire, c'est-à-dire tout le monde était occupé à peu près les bonnes zones. Évidemment, vu que l'axe était fermé, comme Raphaël l'évoquait, ça construisait beaucoup, ça cherchait beaucoup à progresser sur les côtés, et les zones étaient plutôt bien occupées. Mais ensuite, en termes d'association et de joueurs, il y avait quelque chose qui clochait, c'est-à-dire il y a très peu de mouvements quand, par exemple, de l'autre côté, tu avais des sorties de balles avec Skriniar, Barella, Hakimi. Il y a une très belle sortie de balle en première mi-temps où le ballon sort sur ce côté droit. On n'a jamais vu, enfin, j'ai jamais vu d'association comme ça qui fonctionnerait très bien côté Juve, où tu as, Raph parlait de Morata et Ronaldo entre eux, mais tu pouvais aussi imaginer Danilo, Rabiot, Chiesa, ou bien de l'autre côté, Chiellini, Ramsey, Frabotta. Et à aucun moment, en fait, tu vois une association qui naît, qui pourrait permettre à la Juve de s'appuyer dessus et vraiment de progresser, de créer des décalages, parce que les joueurs se trouvent dans ces espaces-là et font des différences.
Ouais, bah, y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Je vais pas m'amuser, je suis assez d'accord avec l'exposé, donc je vais pas répéter là-dessus, mais déjà, je me pose la question du rapport entre, alors à la fois l'ADN Juve, même si parfois c'est une notion un peu surévaluée parce qu'on peut changer la façon de jouer d'une équipe, et voilà, quand Bielsa arrive à Bilbao, ça change totalement, alors que Bilbao est historiquement plutôt une équipe bourrine, donc il n'y a pas forcément de fatalité là-dedans, mais c'est vrai que quand je vois la manière dont la Juve joue depuis maintenant pas mal d'années, hein, même fin 90, début 2000, c'était quand même assez séparé entre une base défensive assez forte et un créateur et un ou deux attaquants, voilà, mais c'était quand même assez peu sur une idée de fluidité, etc. Alors je comprends à la fois la volonté de Pirlo, et je trouve ça plus joli à voir dans l'idée, et puis ça va aussi dans le sens de l'évolution du foot, mais c'est vrai que quand tu vois cette attaque Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, que tu vois quand même des joueurs de profondeur, même si là il y avait que Chiesa qui pour moi pouvait vraiment être celui qui fait ces courses là, mais tu te dis, tiens, est-ce que la meilleure construction d'équipe c'est de passer au sol, de construire, d'essayer de combiner, ou alors est-ce qu'il faut pas juste avoir une menace ou deux menaces sur les côtés, et puis deux attaquants qui ont déjà montré malgré tout sur le début de saison qu'ils étaient capables de bien s'entendre après face à des blocs qui étaient un peu moins solides, peut-être un peu moins regroupés que ceux de l'Inter, donc du coup parfois aussi des défenses à deux, donc c'était sans doute plus simple. Mais c'est vrai qu'en fait je vois le chemin qui veut être pris par Pirlo. Maintenant, à la fois je me pose la question, et ça rejoint à la fois ce que tu disais, ce que Raphaël disait sur certaines utilisations de Cristiano Ronaldo, par exemple des fois je le vois dézoné carrément totalement à gauche ou demi-espace gauche, où tu dis, tiens, c'est intéressant d'avoir un joueur à ce poste-là. Maintenant, quand lui est à cet endroit-là, à 30 mètres du but, son impact est assez neutre. Il n'est pas nul, mais disons qu'il va faire un choix de passe assez facile à faire par pas mal de joueurs de ce niveau-là. Et finalement, il va pas être servi proche du but, ce qui est sa qualité principale. Et en fait, il y a beaucoup de joueurs comme ça, où je vais pas dire non plus que c'est du contre-emploi, mais en fait, je sais pas si Pirlo aura simplement le temps de mettre en place tout ce qu'il veut sur la circulation de balle ou autre. Alors, je suis pas fan de Bentancur et Rabiot, mais ça, historiquement, hein, ça date pas de ce match-là. Mais par exemple, quand je vois la défense à 3 derrière, je me dis, tiens, alors, De Vrij, je suis pas fan absolu, mais c'est un bon joueur. Mais quand tu vois Bastoni, Skriniar, les deux centraux excentrés, et de l'autre côté, t'as Danilo Chiellini, pour moi, rien que là, il y a un déficit de créativité et une forme de contre-emploi. Alors, je viens d'utiliser le terme, mais pour Chiellini, où tu te dis, sans De Ligt, notamment dans cette défense à 3, est-ce que Chiellini peut t'apporter des choses si lui n'est pas capable de porter le ballon, de faire beaucoup de passes sous pression, de construire des circuits de jeu? Voilà, je m'interroge, et je sais pas à quel point c'est simplement une question d'individualité qui n'arrive pas immédiatement à magnifier le système, ou juste que en 4 mois, Pirlo ne peut pas totalement changer le profil d'un effectif qui, encore une fois, n'a jamais été un effectif qui faisait des circulations de balles très précises et des changements phase off, phase dev de système comme c'est le cas actuellement.
Ouais, c'est ça, Raphaël. Si on sort simplement du constat de ce match et qu'on se penche un petit peu sur l'effectif de la Juve, c'est sûr que on en a déjà assez parlé, mais il n'y a pas forcément de joueurs ultra compétents entre les lignes pour faire en fait ce que Pirlo aimerait peut-être, vu les positions qu'il demande à chacun. C'est pas Rabiot, c'est pas Bentancur, Ramsey peut-être, mais ça, encore faut-il réussir à trouver des appuis devant, et Ronaldo, Morata entre les lignes, c'est pas non plus leur spécialité en général.
Bah c'est tout le problème de la question d'Ibala. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais de Dybala, où est-ce que tu l'utilises, comment tu l'utilises, est-ce qu'il va continuer à jouer à la Juve alors que ça fait quand même maintenant deux ans et demi qu'il n'est pas tout le temps en titulaire, même de plus en plus rarement j'ai l'impression, alors que ça devrait être ton 9,5, ton 10, ton Griezmann de l'Atlético ou ton Griezmann de l'équipe de France il y a quelques temps qui faisait jouer autour de lui. Et là malheureusement, Ronaldo, Morata, en effet, c'est pas des joueurs qui vont être capables d'imiter ça. Plus bas sur le terrain, Ramsey est un joueur de projection, Rabiot peut se projeter, c'est pas un joueur qui va recevoir le ballon entre les lignes, et Bentancur, qui aurait pu être ce joueur il y a quelques années, a pris la succession de Pjanic devant la défense. C'est après la construction d'effectifs de la Juve, on la loue parce qu'il récupère souvent des joueurs libres, que l'exception de Ronaldo, il n'y a pas des sommes énormes qui sont dépensées.
Elle est moins en moins louée quand même.
Ouais, ces derniers temps, on l'a louée alors. Voilà. Mais le gap entre le milieu d'il y a 4-5 ans, et c'est pas un nouveau sujet, hein, c'est pas un scoop ce qu'on va dire, mais entre ce milieu, que ce soit le losange au milieu à 3 qui était construit par Vidal, Pogba, Marquinhos et Pirlo évidemment, qui est devenu le coach maintenant, il y a un écart énorme entre ça et ce qui est proposé aujourd'hui. Et le milieu de la Juve est moins moderne aujourd'hui qu'il l'était il y a 5 ans. Ça, c'est quand même un problème, et je le trouve En plus, on disait que Morata et Ronaldo, c'est un peu redondant sur certains aspects. Et je trouve que c'est pareil au milieu de terrain, où il y a peu de changements de rythme, où il y a peu de surprises dans ce qu'ils vont faire, où il n'y a pas de joueurs qui vont se déplacer entre les lignes et y recevoir le ballon pour faire avancer le jeu. C'est beaucoup de joueurs qui vont recevoir dans les pieds, donner un ballon, repartir sans ballon, ou percuter avec ballon. Mais voilà, c'est Rabiot Ramsey, par exemple, tu vois, sur les profils, j'entends Rabiot qui va jouer un peu plus bas, Ramsey qui va se projeter, mais tu vas te projeter dans quel espace, vu que Ronaldo et Morata n'en libèrent pas énormément. Et il y a beaucoup de choses sur la construction d'effectifs de la Juve qui posent problème, et c'est aussi pour ça que cette année, les 2000 ans ont enfin une vraie chance pour le titre.
C'est ça, c'est ce qui est marquant, Christophe, depuis le début de la saison, le milieu de la Juve qui s'est peut-être le plus illustré, même si je l'ai vu assez peu, cette Juve, mais dans le sens, voilà, tu vois des gens parler des matchs, et il y a un nom qui ressort, c'est l'Américain McKenny, qui va plus ressortir par son volume et par sa capacité à faire beaucoup d'efforts dans les deux sens, puisqu'il est capable de se projeter lui aussi, plus que pour sa créativité. Mais ça, tu peux le dire, en effet, de tous les milieux. Là, j'ai les milieux sous les yeux, et entre Bentancourt, Rabiot, Arthur, McKenny, Ramsey, il n'y a pas forcément cette créativité que tu avais déjà rien qu'avec Pjanic lors de la saison précédente.
Bah, de toute façon, il y a, allez, on va dire qu'il y a trois manières, vraiment, si tu résumes un petit peu, de bien attaquer. Alors, c'est le mieux, c'est d'un peu pouvoir tout faire, mais la première chose, c'est de récupérer le ballon haut. Comme ça t'évite d'avoir besoin de percer le milieu adverse si tu te retrouves en une récupération de balle à 25 mètres du but. Là, je trouve que la volonté de presser est assez intéressante. Encore une fois, j'ai pas compris certaines attitudes. Alors, c'est pas... En fait, c'est difficile de dire il y a machin ou bidule qui a mal fait les choses. Je trouvais simplement qu'il y avait des retards, des décalages, des sous-nombres qui étaient pas bien exploités. Alors, la solution la plus simple, c'est de faire l'individuel. C'était pas le cas. Là, ça se déplaçait, mais en gros, l'Inter manipulait assez facilement la structure sans ballon de la Juve pour pouvoir sortir de la pression. Donc là-dessus, je pense qu'il y a peut-être à la fois un problème d'intelligence situationnelle de certains joueurs, type Morata qui est sur le réceptionneur, je sais plus qui c'est, ça devait être Brozovic, mais il y a un des centraux qui est libre, donc du coup il va aller sur le central, sauf que Brozovic était le destinataire le plus proche de la passe. Voilà, il y a des choses comme ça où tu dis tiens, les gars n'ont pas forcément l'habitude de presser, donc du coup il y a des réflexes qui sont pas acquis, et c'est plus simple de faire l'individuel quand t'as pas l'habitude, chacun suit son homme et voilà, on s'adapte à la structure de l'adversaire que d'essayer de bouger à chaque fois. Mais bon, ça c'est la première chose, et je trouve que le pressing de la Juve est globalement plus intéressant dans son impact, mais il est encore perfectible, la preuve en a été sur ce match-là. La deuxième chose, c'est tu pars de bas et t'essayes de casser le bloc adverse, un bloc qui est... c'est-à-dire qui est relativement regroupé, médian ou bas, mais voilà. Et là-dessus, on en revient à la question des créateurs, et c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont être capables de prendre la balle et de faire beaucoup de différence par la passe ou autre. Alors certains peuvent aller percuter, dribbler, un Chiesa, un Kulusevski, c'est pas des dribbleurs incroyables, mais ils vont avoir cette verticalité avec le ballon. Mais encore une fois, ça peut passer face à Crotone, face à l'Inter, je pense que c'est plus difficile. Et la troisième chose, c'est vraiment d'avoir des circuits de construction très très précis. Alors c'est mieux quand l'adversaire presse, parce que sinon, s'il vient pas te chercher, faut vraiment vraiment être bon pour faire exploser des blocs juste par la passe. Mais là-dessus, on voit que l'Inter, qui a pas beaucoup beaucoup de joueurs ultra créatifs entre les lignes, je pense que Barella est capable d'un peu de faire tout ça, mais Brozovic c'est plus pour sortir de la pression, Vidal c'est plus pour être box to box, mais l'Inter a cette capacité finalement à passer par le piston qui va jouer en faux pied, donc il va pouvoir remettre intérieur, à créer assez facilement des triangles sur toutes les hauteurs du terrain, et l'Inter va avoir ça, et ça compense assez facilement le manque de créativité, parce que tu auras plus de circuits de passe, mais c'est des circuits assez faciles, parce que répétés, parce qu'habituels, et donc c'est là-dessus que tu vas créer des différences. Et j'ai l'impression que la Juve est à 5, 6 sur 10 un peu partout, peut-être un peu plus dans la créativité, un petit peu plus haut, et c'est juste que là l'adversaire était un peu plus fort que d'habitude en Serie A, donc du coup il y avait plus de difficultés à percer ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la Juve n'a pas encore une grosse force, et que c'est un peu embêtant, et que finalement, alors je suis pas sûr que ça soit le chemin à prendre à moyen long terme, mais tu te dis que potentiellement les résultats seraient peut-être meilleurs si simplement tu mettais Morata, Ronaldo dans la surface, et que tu balançais des centres, ou en tout cas que tu avais un projet de jeu peut-être un petit peu moins collectif, un petit peu plus minimaliste, mais où simplement t'essayais de mettre la balle dans les zones dangereuses un peu plus facilement.
Et justement, t'as évoqué un peu son cas, Raphaël, on va parler un peu de l'Inter en face, et d'un joueur, c'est Nicolò Barella. Nicolò, hein, on est d'accord ?
Oui.
Oui.
C'est un haut, oui, c'est ça. Nicolò Barella, qui est l'homme du match hier, passeur décisif sur le premier but, buteur sur le deuxième avec cette passe incroyable de Bastoni pour le lancer en profondeur. Barella, je me rappelle que quand on avait découvert l'Inter de Conte, c'était un des deux milieux de terrain qui sortait du lot, c'était Barella et Sensi, les deux milieux, avec Barella qui se distinguait surtout par son volume, par ses courses, etc., et Sensi pour sa capacité à se rendre dispo entre les lignes et dans le dernier tiers. Et en fait, j'ai l'impression que bon, Sensi a un petit peu disparu entre les blessures et la concurrence. Mais entre-temps, j'ai l'impression que Barella, en fait, il a aussi pris un peu de la panoplie de Sensi. Il est devenu un milieu hyper complet et il l'a montré hier.
Ouais, c'est un... Pour comparer avec l'Italie de Conte 2016, c'est un Giaccherini de luxe. C'est-à-dire qu'il va être capable de recevoir le ballon, de bien s'orienter, il va être capable de se projeter, capable de finir, capable de claquer des passes dés. Et dans cet Inter, où vous l'avez dit, il n'y a pas non plus énormément de joueurs entre les lignes, mais t'as pas forcément besoin d'eux, parce que tu vas trouver Lautaro et Lukaku directement, et que c'est eux, par leur remise, par leur déviation, qui vont faire avancer le jeu. Bah, Barella, c'est le mec qui arrive pour rendre hommage à mon ami Christophe Kuchli, comme ils ont NBA, un peu en trailer, c'est-à-dire que voilà, tu vas contre-attaquer ou tu vas attaquer rapidement, tu vas créer de l'espace, et puis il va y avoir une passe vers l'arrière et un mec qui arrive pour dunker. Et Barella, c'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est le gars qui va profiter des espaces ouverts par Lukaku et par Lautaro, mais qui aussi est capable de jouer dans des petits espaces. Et il est hyper complet. Et quand j'avais vu, pour un article à l'époque, pour l'équipe, un papier sur l'Italie de Mancini au début, il y avait Verratti, il y avait Jorginho, et le troisième homme, c'était Barella, qui avait été choisi par Mancini, justement parce qu'il était capable de plus et de jouer de manière plus variée que les deux autres milieux. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu le même rôle qu'il tient dans cet Inter et qu'il a énormément progressé en plus, même s'il était déjà très bon quand il apparaît en Serie A, mais vraiment qu'il est ce troisième homme, à la fois pour le milieu et à la fois pour les attaquants. Et cette double fonction est très intéressante.
Ouais, 2 buts et 6 passes décisives pour lui depuis le début de la saison, Christophe. Et en plus, Raph le comparait avec le Giaccherini de l'Italie 2016. Et c'est vrai que c'est très intéressant comme comparaison, c'est plutôt bien senti, parce qu'il a en plus cette capacité à être pertinent quand il se retrouve en position d'ailier, comme sur le but d'ailleurs, le premier but hier, le centre qu'il dépose sur Vidal. Quand il y a un espace à attaquer, il peut prendre l'aile, et ça permet par exemple à Hakimi de rentrer intérieur, de foutre un peu le bordel, et ça apporte en plus une variété supplémentaire à l'équipe en phase offensive et dans le dernier tiers, là où l'Inter, on l'a déjà mentionné, a souvent du mal d'ailleurs.
Ouais, bah en fait, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas sur ce match-là, en tout cas, c'est pas son volume de jeu, mais la façon dont il a utilisé le ballon quand le ballon était dans ses pieds. Et ça dit vraiment quelque chose, parce que du volume de jeu, il en avait, il en a toujours. Et donc, c'est-à-dire, si t'es moins frappé par ça, alors il y a peut-être une question d'habitude aussi, où tu t'attends à le voir courir, mais moins frappé par ça que par le reste, c'est que le reste est vraiment bon, là où Vidal, alors qu'il marque son but, etc., mais... Je veux dire, même dans les grands matchs, avec dans l'utilisation du ballon, tu vois d'abord son impact physique, etc. Là, Barella commence à atteindre des hauteurs dans l'utilisation du ballon que je trouve vraiment intéressantes. Alors moi, c'est l'une des histoires du match. Alors c'est peut-être pas l'histoire du match, mais l'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était en gros ce triangle avec Skriniar et Hakimi. Aussi parce que, et ça c'est à mettre au crédit de Skriniar, et ça facilitait je pense encore un peu la tâche de Barella, mais Skriniar n'hésitait pas à fixer, à porter le ballon assez haut, et du coup le triangle pouvait s'inverser. Il y a des fois où t'avais Hakimi qui était le long de la ligne de touche, Skriniar qui était demi-espace, et Barella qui avait la position la plus reculée des trois, mais en tout cas les trois étaient assez fluides. Parfois Hakimi revenait intérieur, Barella passait côté. C'était alors c'était pas tout le temps, hein, c'est pas Toloi et compagnie non plus, mais t'avais quand même cette volonté de combiner. Et finalement Barella était intéressant à la fois dans sa capacité effectivement à faire le triangle de l'autre côté, c'est-à-dire que tu enlèves Skriniar et tu intègres Lukaku avec toujours Hakimi en troisième homme, donc déjà ça c'est intéressant, mais en plus c'est vrai qu'il a à la fois la sérénité du mec que tu peux trouver dans son camp, qui va bien savoir orienter son corps, et c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, parce que je me suis enfilé les deux matchs, là, comme je disais, à quelques heures d'intervalle, et l'orientation du corps de tous les joueurs de l'Inter pour relancer sous pression, et notamment de Barella, elle est toujours bonne, alors que tu vois Griezmann et d'autres du côté du Barça, où vraiment la moitié du temps, ils prennent pas l'info, et ils font des appuis-remises, alors qu'en fait, ils avaient personne en train de les tamponner derrière, et ils pouvaient se reculer. Là, l'orientation du corps de Barella, elle est toujours bonne, donc du coup, il s'est toujours trouvé le bon triangle, et puis si jamais il peut se retourner porter le ballon, il le fait, mais en plus, il a effectivement cette forme de créativité dans le dernier tiers où il fait feinte de centre du droit, il centre du gauche, je crois, sur le premier but. Il est capable de faire des bonnes passes, il se projette dans le bon espace sur le deuxième, et c'est vraiment bien. Autant un Brozovic, alors très bon joueur et qui remplit son rôle, hein, mais a quand même ce rôle un petit peu exclusif, j'ai l'impression, devant la défense, parce que voilà, il va pouvoir absorber la pression, et comme Verratti, alors sans le dribble, mais voilà, ce sont des joueurs qui vraiment pour moi sont utiles pour attirer l'adversaire et pour faire les bons choix de jeu, pour pas paniquer. Autant Barella a vraiment ce côté 8, ou même numériquement, quoi, c'est entre le 6 et le 10, c'est-à-dire qu'il peut être calme dans sa propre surface. Là, il a le côté 8 où il va faire beaucoup d'allers-retours, mais il peut aussi avoir une forme de côté 10 où, quand il arrive dans le camp adverse, il va pas hésiter à faire la passe un peu tranchante, à prendre de vrais risques, à solliciter Lukaku en profondeur, plutôt que simplement rester dans l'appui remise, ce qui pourrait être redondant si tu avais un deuxième joueur un peu profil Vidal, où finalement tu te reposerais, je pense, beaucoup plus sur les centres de tes latéraux, donc de Hakimi, parce que je suis moyennement convaincu par ceux d'Ashley Young de l'autre côté.
Raphaël, je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer à la suite ou non ?
Non, mais un dernier petit point sur quand même les latéraux de l'Inter. Et je l'ai déjà dit, je ne sais plus dans quel format et dans quel épisode qu'on avait fait, mais sur l'importance de jouer mauvais pied ou de jouer faux pied pour les latéraux de l'Inter. Alors pour Ashley Young, c'est plus facile, il est droitier qui joue à gauche. Mais Hakimi l'a très bien fait de l'autre côté, c'est-à-dire quand la passe va être faite d'un central au latéral, que ce soit Hakimi ou Young, ça a déclenché le pressing de la Juve qui sortait avec ses latéraux, puisque c'était 3-5-2 contre 3-5-2 quasiment, en tout cas, soit ses latéraux, soit ses joueurs de côté, Ramsey et Chiesa qui défendaient sur les côtés. Et à ce moment-là, ce qui est difficile si t'es droitier à droite, c'est de t'orienter vers l'avant, parce qu'on va t'empêcher d'utiliser ce pied droit. Mais Hakimi a très bien fait des passes du pied gauche vers l'avant pour ensuite redemander dans l'espace. Et la domination d'Hakimi dans son couloir droit contre Frabotta et contre Ramsey a été importante pour cette victoire de l'Inter. Juste un truc sur Barella, je crois que Christophe parlait de sa passe D sur le but de Vidal en disant il fait feinte du gauche et il centre du droit, c'est l'inverse. Mais enfin,
je pensais avoir dit feinte du droit, centre du gauche.
Je l'ai peut-être mal entendu, mais en tout cas c'était ce côté-là où Barella a d'ailleurs combiné pas mal avec Hakimi et les deux jouaient un peu dans la même moitié de terrain. Et le côté fort de l'Inter... alors l'autre côté, c'est limite le côté qui va recevoir les ballons et y marquer au final, et le but de Vidal sur passe des de Barella symbolise un peu ça, où tu vas avoir un pôle créatif à droite et un pôle finisseur un peu à gauche, même si Ashley Young n'a pas marqué tellement de buts, mais elle est intéressante cette asymétrie. Et c'était un match où il y avait d'ailleurs pas mal d'asymétrie dans il n'y avait pas forcément deux côtés forts, mais le côté Barella Hakimi plus Skriniar dont parlait Christophe était vraiment la phase, le secteur de jeu, l'endroit du terrain où l'Inter était a construit un peu sa victoire.
Flo, juste avant d'enchaîner, peut-être te donner la compo de l'Inter. C'est juste comme ça, je me dis qu'on a donné la compo de la Juve et pas celle de l'Inter en face.
Oui, bah vas-y si tu veux.
Ouais, alors Handanovic dans les buts, Skriniar, De Vrij, Bastoni en défense centrale. Bastoni qui d'ailleurs, je sais plus si c'est lui ou Conte après le match, mais en tout cas ils ont déclaré que depuis le début de la saison, ils tentaient et ils s'entraînaient beaucoup à l'entraînement pour essayer cette passe en profondeur et que ça avait enfin marché. Et donc voilà, c'est pas une inspiration particulière de Bastoni qui trouve Barella pour traverser tout le terrain, c'est vraiment quelque chose qui est ultra répété et c'est seulement la première fois que ça marche, comme quoi parfois tu bosses mais c'est y a pas toujours le résultat sur le terrain tout de suite. Hakimi, Young en piston, Barella, Brozovic, Vidal au milieu et Lukaku, Lautaro, Martinez devant.
Eh bien merci Christophe, la précision devait être faite en effet, histoire d'avoir les compos des deux équipes. On va passer à notre match suivant. Raphaël, t'as mangé pas mal de Bilbao, donc je vais venir te voir pour ouvrir, on va dire, sur ce match. La rencontre entre Bilbao et Barcelone, la finale de Supercoupe d'Espagne, match que je n'ai pas vu, à l'inverse des deux autres, donc je vais vous laisser vous exprimer, et Raphaël, je vais te laisser ouvrir le bal sur ce que tu veux, vu que tu as un papier en préparation pour Copa Arena sur l'Athletic Bilbao de Marcelino et ses premiers matchs. Je pense que tu es plutôt bien pour ouvrir le bal. Vas-y.
Oui, bah parler de ce Bilbao-là, parce que Marcelino est un coach très important des dernières années, peut-être un peu sous-estimé par rapport à ce qu'il a apporté au club où il est passé. Son Villarreal était top, son Valence était top, et ça s'est fini un peu bizarrement et un peu trop vite, alors qu'il avait vraiment réussi à construire quelque chose de sympa. Et en effet, je me suis tapé les trois derniers matchs de Bilbao pour un papier à venir sur Copa Arena. Alors évidemment, on peut parler de plein de choses chez Marcelino, mais ce qui est très fort chez lui et qu'il a réussi à créer en quelques jours, c'est ce que fait son équipe sans le ballon. C'est-à-dire qu'il y a énormément de compacité dans son bloc, il y a un 4-4-2 qui est ultra compact, notamment dans la profondeur, c'est-à-dire que là, notamment entre la ligne défensive et la ligne des milieux, où c'est très difficile de recevoir le ballon, et ça a bien embêté que ce soit le Barça ou la Real sur les trois matchs que j'ai vus. C'est aussi très compact dans la largeur, c'est-à-dire que tu vas être entre le latéral gauche et le latéral droit, peut-être sur 35, 30 mètres, parfois 40 si t'es un peu large, mais c'est très rare. Par exemple, si le ballon est dans l'axe, Bilbao va pas être élargi sur toute la largeur de la surface, ça va être encore plus resserré que ça. Et ça va aussi créer des espaces pour l'équipe adverse à l'opposé, mais que Bilbao va réussir à gérer sur le temps de passe. Donc c'est ça, je pense, ce sur quoi il faut insister concernant Marcelino, c'est qu'en une semaine, il a réussi à recréer quelque chose à Bilbao, qui jouait un peu parfois dans le même système, hein, qui jouait en 4-2-3-1, parfois un peu de 4-4-2, donc c'était peut-être plus simple que récupérer une équipe qui joue en losange ou en 4-3-3 et changer tout ça. Mais c'est fort ce qu'il a réussi à créer, et aussi dans l'état d'esprit, l'effort collectif, au-delà du système, c'est une équipe qui va se replier très vite, qui va attaquer très vite, qui va faire les efforts, où les deux attaquants vont être impliqués dans l'effort collectif, où Mounir, le créatif, va l'être aussi, et ça c'est ce qui m'a vraiment marqué sur ces trois premiers matchs, même si on peut développer après, un peu après comment ça défend et comment ça attaque précisément.
Christophe, Raphaël a beaucoup parlé de compacité. Si je te dis le Slavia Prague, le Benfica de je ne sais plus qui, ou le Shakhtar, je crois que c'était de Paulo Fonseca, où se classe le Bilbao de Marcelino en termes de compacité par rapport à ces équipes-là?
Alors, t'as moins, notamment la compacité du Slavia, qui était avec une ligne défensive ultra haute, et où là, du coup, c'était un délire absolu, et parfois tu te demandais comment ça tenait, mais en même temps, parce que la passe en profondeur était, entre guillemets, ultra simple à faire, parce qu'il y avait un espace fou dans le dos de la défense, mais t'avais personne qui avait la seconde nécessaire pour simplement enclencher cette passe, donc c'était assez spécial, t'as l'impression limite. Quand je voyais jouer cette équipe, et j'ai parfois eu ce sentiment-là sur certaines séquences, dont une que je t'ai envoyé un screenshot tout à l'heure, où tu te dis, en fait, c'est comme si t'étais face à plein d'immeubles, en fait, t'as des fois un joueur du Barça et 5-6 de Bilbao face à lui, et tu te dis, mais au-delà de faire la passe, en fait, je sais même pas s'il voit des partenaires, en fait, parce que lui n'a pas la vue aérienne, donc qu'est-ce qu'il peut imaginer de... Alors, il peut se douter sans doute qu'il y a un partenaire à l'opposé, puisqu'il en a aucun dans sa zone et qu'il a beaucoup d'adversaires, mais c'est vrai que tu te dis... Parfois, c'est assez compliqué finalement d'avoir une vision, je pense, quand t'es adversaire de ce Bilbao-là, parce que t'as beaucoup de monde face à toi, et généralement t'en as deux ou trois, et t'es très enfermé sur le côté. Mais je trouve que le bloc est un petit peu plus bas quand même, il est plus médian que certaines équipes que t'as évoquées, et que du coup ça prend moins de risques dans le dos, même si face à ce Barça-là, il n'y a pas non plus d'immenses risques sur les prises de profondeur, t'as du Alba, mais sinon t'as pas non plus... Dembélé peut le faire, mais il la prend plus avec ballon. Enfin voilà, t'as pas non plus un milliard de possibilités sur des longs ballons qui seraient mis dans le dos. Mais oui, compacité. D'ailleurs, c'est rigolo, je voyais la prise de notes que Raphaël nous a envoyée pour le conducteur. Et en fait, son premier point, c'est compacité. Son deuxième point, c'est compacité aussi. Dans une formulation un petit peu différente, mais c'est beaucoup l'histoire de cette équipe. Pas forcément l'histoire de ce match, d'ailleurs, je trouve. Enfin, disons l'histoire du score, on va dire. C'est-à-dire que le 3-2, il n'y a pas forcément de buts qui sont... Alors peut-être le premier de Barcelone où ça fixe d'un côté, ça renverse de l'autre, et le bloc de Bilbao n'a pas le temps de coulisser, et forcément quand t'es très orienté sur le ballon, ça se paye si l'adversaire peut changer, mais sinon j'ai l'impression que les buts sortent d'actions un petit peu différentes de tout ça, mais par contre c'est cette compacité du bloc qui donne tout le rapport de force et qui fait que le Barça n'a, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, mais pas eu forcément le droit de jouer au foot, ou en tout cas de jouer au foot dans ces zones préférentielles pendant quasiment tout le match, parce que l'accès intérieur était totalement interdit, et que donc du coup, bah tu vois quasiment pas Pedri, tu vois quasiment pas Messi, et tu te retrouves à avoir une attaque en U, mais très forcée, parce que Bilbao, en fait, met tout le monde à l'intérieur, et puis libère uniquement les couloirs pour Dest, puis Mingesa, qui le remplace à la mi-temps, ou pour Alba. Mais c'était un truc, à la fois, je trouve, assez beau à voir, et presque caricatural, mais dans la bonne vision, s'il existe une bonne vision de ce terme-là. C'est-à-dire que c'était tellement extrême qu'il y avait, je trouve, un côté un petit peu comique, mais du coup, ça donne des matchs intéressants parce que l'adversaire doit résoudre un problème, c'est est-ce que j'essaye de percer ce bloc et de l'attaquer, quitte à perdre la balle parce que j'ai des 1 contre 4 à jouer, ou alors est-ce que j'essaye de prendre ce qu'on me donne, à savoir l'espace sur les côtés, de balancer des centres, ou alors de repiquer depuis le latéral qui sera laissé seul.
Du coup, on va donner rapidement les compos avant de revenir avec Raphaël sur les difficultés justement du Barça sur ce match. Dans les buts, côté Barça, Ter Stegen. À droite, au coup d'envoi, Sergiño Dest. À gauche, Jordi Alba. Dans l'axe, Arojo et Clément Lenglet. Milieu de terrain, De Jong, Busquets, Pedri. Et devant, Ousmane Dembélé, Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et côté Bilbao, évidemment un 4-4-2, puisque c'est Marcelino sur le banc de touche. Unai Simon dans les buts, Ander Kappa, Balenciaga sur les côtés, Inigo Martinez, Yeray, Alvarez dans l'axe, Mounien, milieu gauche, De Marcos, milieu droit. Dans l'axe, Dani Garcia et Unai Vencedor. Unai vainqueur, je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais ça me fait penser à ça. Et devant, Raúl Garcia et Iñaki Williams. Raphaël, sur les difficultés du Barça, est-ce que tu veux parler des difficultés face au pressing, des difficultés dans le camp adverse, des difficultés aussi pour presser, où ils ont eu quelques soucis avec la solution directe, de jeu direct vers Raúl Garcia? De quoi veux-tu nous parler?
Dans le pressing, déjà, c'est pas une équipe qui presse beaucoup et bien, ce Barça-là. Ça m'a encore plus marqué sur le match de championnat, où Bilbao était parfois assez tranquille pour ressortir et avancer. C'est-à-dire que le Barça presse moins que le Real, par exemple, en tout cas sur les matchs que j'ai vus là. Et forcément, avec une première ligne où t'as Messi, c'est difficile de presser. Et ça fait 3, 4, 5 ans qu'on a ce bilan-là. Le premier match où vraiment ça avait été choquant, dans un moment important, c'était la défaite 4-0 au Parc des Princes, avec la première ligne Messi-Suarez qui pressait pas du tout et qui bloquait rien. Ça, c'est une première donnée. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la différence entre ce qu'a fait le Barça sur le match de championnat et ce qu'il a fait là sur le match de Supercoupe qu'il a perdu et sur lequel il s'est créé beaucoup moins d'occasions. En tout cas, j'en ai l'impression, j'ai pas vérifié les XG, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a eu beaucoup moins d'occases. C'est les courses dans le dos de la défense de Bilbao, et notamment des courses qui démarraient depuis les demi-espaces. C'est-à-dire que Bilbao est très très compact quand il défend, donc t'as le duo Iñaki et Raúl Garcia, et derrière t'as deux lignes de 4 qui vont être extrêmement compactes et qui vont un peu se distendre quand le ballon circule chez l'adversaire et notamment va sur une ligne de touche où là c'est soit le latéral soit le milieu qui va sortir. Et quand c'est le latéral qui va sortir, bah, ça peut créer une distance un peu trop grande avec le central. C'est-à-dire que, par exemple, quand le latéral droit sort, le central droit peut parfois rester un peu plus dans l'axe parce qu'il veut pas non plus trop quitter cet espace et le libérer. Et à ce moment-là, c'est un milieu de terrain qui va reculer, notamment le milieu droit, qui va reculer dans cet espace pour quasiment faire une ligne de 5 et qu'il n'y ait pas d'intervalle trop grand. Et le Barça avait très bien joué dans ces espaces-là lors du match de championnat. C'était créé pas mal de courses dans le dos de la défense, même contre un bloc assez bas. Il y avait eu des moments où après tu pouvais centrer en retrait et t'arriver à te créer des occasions. Ils l'ont beaucoup moins fait sur le match de Supercoupe, peut-être aussi parce qu'entre-temps, Marcelino a corrigé et je trouve que cet espace s'est resserré un petit peu. Mais vraiment, c'est ce carré-là entre latéral droit, central droit, milieu axial droit, milieu extra-entrée droit de Bilbao est le même de l'autre côté. Parce qu'un 4-4-2, c'est des paires et des carrés, finalement, comment tu les construis. Et à l'intérieur de ces deux carrés, carré droit, carré gauche, le Barça a été beaucoup plus faible sur ce match-là de Supercoupe que sur le match de championnat, où Bilbao avait déjà montré des bonnes choses, mais le Barça était encore trop fort et il y a 3-1 assez facilement pour le Barça. Et le Barça domine. Là, sur ce match-là, c'était vraiment différent. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si je vais réussir à les trouver, faire la comparaison des occasions créées par le Barça et de la qualité de ces occasions sur les deux matchs.
Après, Christophe, ce manque de course du Barça, c'est quand même aussi... Raphaël évoquait le manque de pressing de la première ligne. Mais le manque de course et d'appel, c'est quelque chose aussi que le Barça se traîne. Alors, ils ont certains matchs où ils le font, mais ils ont un vrai problème de constance. Dans ce registre-là, ce qui fait qu'il y a certains matchs où les courses vont être faites et en effet, souvent à la fin, tu as une victoire et une victoire assez facile et large. Et puis, il y a des matchs comme ça où les courses ne sont pas faites alors que tu as certains joueurs qui pourraient sans doute les faire. On peut penser à Dembélé. Tout à l'heure, tu disais toi-même que lui préférait en effet recevoir dans les pieds. Mais ce genre de zone à exploiter, généralement, ce serait pour un gars comme lui, quoi.
Mais j'ai l'impression qu'en fait le Barça ne fait quasiment pas les courses sacrifices, quoi. C'est-à-dire que tu te mets en marche quand tu as le ballon et quand tu es installé dans le camp adverse, parce que sans doute que, alors généralement c'est Messi qui a le ballon dans ces situations-là, et tu sais que si tu fais le bon appel, si tu bouges bien, tu peux assez facilement être servi et te retrouver face au but, ou en tout cas dans une bonne position. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un vrai intérêt, et puis aussi un peu l'appât du but qui est relativement proche. Par contre, quand il s'agit de faire des courses en profondeur, où c'est quand même assez incertain parce que tu pars de plus loin et que la passe a moins de probabilité de réussite quand elle part de ton propre camp que quand elle est dans les 30 mètres adverses, Moi, j'ai l'impression que philosophiquement, c'est peut-être un petit peu plus dur pour les joueurs du Barça. Alors, c'est peut-être simplement, enfin, une question de qualité, je sais pas, en fait, de lecture des situations, de philosophie tactique, de demande de l'entraîneur. Je suis pas sûr que ce soit simplement juste le oh, j'ai pas envie de courir. Mais c'est vrai qu'il y a deux trois situations où tu dis c'est bizarre en fait, parce que dans un autre contexte un petit peu plus proche du but adverse, vous vous mettez en mouvement pour demander le ballon. Alors parfois c'est dans les pieds, moins tu fais une forme de déplacement, etc., et ce qui permet d'attirer le bloc adverse. Et dans d'autres contextes, tu le fais pas forcément. Mais limite plus que le manque d'appel, même si encore une fois, hein, ça serait mieux que tu fasses les appels, ça serait mieux que tu fasses les courses. Et j'avais envoyé aussi une transition où t'as Dembélé qui part, Messi à 10 mètres d'avance sur lui. Alors au final, Messi, en ne courant pas, devient un recours parce que Dembélé va un peu s'enfermer tout seul. Et finalement, ça lui permet de jouer en retrait sur Messi, qui écarte. Et c'est l'une des rares occasions du match où le Barça peut tirer au but, mais ne marque pas, parce que sinon, comme disait Raphaël, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment aucune occasion nette en dehors des buts. Mais je veux dire, Messi a 10 mètres d'avance, enfin 5 mètres d'avance au début de l'action et 10 de retard 5 secondes plus tard. Donc c'est là-dessus, Messi et d'autres font peut-être aussi un petit peu leur rage et leur manque de physique, parce qu'ils ont beaucoup tiré sur la corde la saison dernière. Mais plus que ça, qui est un peu récurrent, moi ce qui m'embête aussi, parce que c'est le Barça, c'est les problèmes dans la sortie de balle face au pressing. Je le disais tout à l'heure, la ligne défensive de Bilbao est un peu moins extrême que celle de Prague notamment, mais sur la première relance, quand le Barça joue court, là elle est très haute. C'est juste qu'elle sait bien se replier, qu'elle se maintient pas haute si jamais le pressing n'est pas efficace. Et là-dessus, j'ai trouvé qu'en fait ça t'a pas forcément amené des occasions, dans la mesure où le Barça n'a pas fait d'énormes erreurs sur les transmissions entre un central et son gardien ou autre, mais le Barça a beaucoup trop facilement rendu le ballon, et finalement ça te donner des phases où tu n'avais pas à défendre en bloc médian face à des joueurs type Pedri, type Messi, qui peuvent faire vraiment des différences balles au pied, voilà, qui ont une vraie créativité. Là, au final, tu t'épargnais parfois des séquences de 10-15 minutes de défense et tu pouvais, on va dire, calmement garder le ballon, construire, et du coup un peu moins courir, parce que ça court quand même énormément, simplement parce que le Barça, alors Griezmann c'est celui qui m'a le plus énervé, mais c'est pas le seul, ne prend pas les risques et ne reconnaît pas les bonnes situations où le pressing adverse a une faille et où tu peux l'attaquer. Donc au mieux tu faisais reculer l'adversaire à force de faire passer le ballon de droite à gauche, et du coup Bilbao finissait par redescendre parce que il n'y avait pas possibilité vraiment d'enfermer l'adversaire. Mais j'ai pas vu à un seul moment ce que tu vois du côté de l'Inter. Alors t'es pas obligé de le faire de la même manière, mais un pressing adverse qui fait que l'adversaire est positionné très haut, et en trois passes tu vas t'ouvrir des espaces. Donc c'est-à-dire il y avait pas la course, mais t'avais même pas forcément le lanceur qui serait en position d'avoir le temps et l'espace pour servir un appel en profondeur. Et ça m'embête plus, parce que c'est quelque chose qui était quand même l'un des marqueurs du Barça depuis Cruyff, même si ça pressait moins à l'époque, mais depuis Guardiola. Et j'ai l'impression que maintenant le Barça non seulement ne le fait plus, mais même devenu l'une des grosses équipes qui le fait le moins bien. Et le Real est mille fois plus compétent pour sortir de la pression que ce Barça-là.
Après, tu vois, il y a aussi tu parlais du cas de Griezmann, mais Griezmann, si tu prends toute sa carrière, à aucun moment, j'ai l'impression en tout cas, il s'est retrouvé dans une équipe qui cherchait à sortir sous pression.
Oui, totalement.
Si je remonte le truc, donc c'est quelque chose, même alors qu'il approche de la trentaine, c'est quelque chose qui pourrait encore apprendre. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps en effet que le Barça, et ça s'est vu dans les remontadas qu'il a encaissées après en avoir mis une au PSG, face à la Roma ou face à Liverpool, l'une des principales clés de ces remontadas, c'était son incapacité totale à se défaire du pressing adverse, que ce soit la Roma ou Liverpool. Raphaël, un joueur, tu voulais évoquer le cas d'un joueur, il y en a peut-être deux même qu'on va évoquer, deux individualités au sein du collectif de Marcelino, c'est Mounier et Iñaki Williams. Alors je reprends juste tes notes pour m'appuyer dessus, vu que je n'ai pas vu le match, mais tu as écrit simplement Iñaki très très fort.
Oui, très très fort. Non, mais très très fort parce qu'il a un peu tout fait sur cette rencontre et même sur les rencontres précédentes. Je reviens un peu sur la première, même si je ne vais pas tout dévoiler, hein, je garderai le max pour Copa Arena, mais sur la première contre le Barça, en championnat il y a une semaine, il avait été très très bon pour attaquer l'espace et à la récupération, pour faire reculer le bloc du Barça et l'empêcher de presser à la perte, ça avait été très très fort de sa part. Et là sur cette rencontre, dans des espaces plus petits, que ce soit sur sa passe D pour De Marcos ou pour son but, le but de la victoire, C'est dans des espaces assez resserrés, il va réussir à s'ouvrir des angles de frappe et avoir la finesse technique pour trouver le côté opposé, que ce soit sur la lucarne d'ailleurs, deuxième poteau, ou sur le centre pour le petit ballon piqué pour De Marcos. Et vraiment, c'est un joueur qui a toujours été bon, et depuis qu'il a commencé à jouer à Bilbao, a toujours été intéressant parce qu'il est complet et tu te dis il y a un potentiel pour qu'il soit vraiment l'attaquant qui peut jouer dans les espaces, qui peut recevoir de haut jeu, qui peut embêter un défenseur central et qui peut finir. Il y a une belle frappe de balle. Et là, sur ces matchs récents, j'espère que Marcelino arrivera à le faire progresser encore. On voit un mec qui est capable de vraiment emmener une équipe, de la diriger, d'être le leader d'attaque et qui peut jouer dans plein d'espaces différents et qui a cette finesse. Et en fait, je lui trouve pas de lacunes comme ça apparentes tout de suite. Alors, il y a peut-être des prises de balles parfois qui peuvent être améliorées, mais il est assez véloce et puissant pour embêter un central sur de longues distances. Il est assez bon dans la conservation de balles pour jouer dans des petits espaces. Il est capable de combiner, il voit le jeu. Et les deux actions décisives qu'il fait, c'est vraiment des actions où tu vois bien le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bon pour Bilbao, déjà sur Iñaki. Et le deuxième, c'était Muniain, et c'est lié quelque part à De Marcos. C'est que sur le premier match que j'avais vu contre le Barça en championnat, les deux joueurs de côté, milieu excentré comme Muniain et De Marcos, jouaient limite demi-espace tout le temps, ou allaient rarement vraiment coller la ligne de touche, c'était plutôt pour les latéraux. Et là, sur ce match contre le Barça, Muniain était vraiment demi-espace gauche, il revenait tout le temps intérieur et laissait le couloir. Et par contre, De Marcos de l'autre côté jouait excentré, jouait à l'extérieur d'Alba, pour être dans son dos, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il marque et qu'il égalise dans la foulée de l'ouverture du score du Barça. Donc il y a aussi cette petite adaptation, je pense, entre le. Quelque part ce match aller de championnat qui permet de voir ce qui va se passer et ce match retour que tu joues en Supercoupe et qui est plus important, en tout cas pour Bilbao. Et voilà, des petites modifications comme ça qui promettent aussi parce que il faudra voir ce que donnent les joueurs qui vont sortir du centre de formation et est-ce que Bilbao va réussir à récupérer d'autres Basques parce que Marcelino est capable de convaincre et d'attirer. Valence, il a laissé que des bons souvenirs et les joueurs l'adoraient. Mais ça promet pour la suite. Et d'ailleurs, c'est aussi une donnée curieuse, c'est de voir comment Marcelino qui est passé jusque-là par des clubs où tu pouvais recruter, va s'adapter à cet environnement Bilbao, où c'est surtout le centre de formation qui va t'apporter. Mais c'est assez prometteur sur ses premiers matchs, et Muniain aussi, j'espère, va prendre la dimension qu'il aurait dû prendre depuis quelques années, et même s'il y a toujours eu des bons passages de sa part, mais jamais régulier au point de se dire « Ah ok, Muniain doit avoir la carrière qu'il devait avoir », parce que quand il commence avec Bielsa, tu te dis « Est-ce que c'est vraiment très très loin de Hazard début de carrière ?» Et maintenant, c'est quand même assez loin.
Christophe, une dernière question, et Raphaël pourra y répondre après. Aujourd'hui, l'Athletic Bilbao est 12e de Liga avec 21 points. Déjà 9 défaites, je crois qu'ils sont sur un 6-3-9 en termes de résultats, 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Pour arriver à ces 21 points, aujourd'hui, la 8e place est à 23 points, la 6e place est à 30 points, la 4e place est à 32 points. Alors on n'est pas sur notre épisode des takes pour la deuxième partie de saison, ça viendra plus tard, mais si tu devais faire un take sur le nombre de points pris par Bilbao sur la deuxième moitié de saison, tu te risquerais à quoi?
Bah écoute, elle a 21 en 18, on va dire qu'ils en prendront un au prochain match, ça fera 22. Je les vois bien en prendre entre 28 et 32. Il y aura une finale de, on va dire 30, il y aura une finale de coupe aussi parce qu'ils l'ont reporté d'un an, mais ils vont quand même la jouer face à la Real, donc peut-être que ça peut perturber le match de la semaine d'avant et le match de la semaine suivante, donc il y a ça aussi à prendre en compte, toujours voir ce qui pourrait être l'objectif de la fin de saison. Si t'es 7-8ème, c'est loin des places européennes, peut-être que ça va lâcher un peu, mais je trouve cette équipe intéressante parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, enfin tout ce que moi j'ai dit, parce que Raphaël a parlé pas mal aussi des individualités, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, je pense, une capacité à un petit peu sublimer quelque chose qui pourrait être sinon vu comme très défensif, ou en tout cas beaucoup pour embêter l'adversaire, à savoir toute cette notion de capacité sans ballon. Et avec ballon, comme l'a dit Raphaël, ça repose beaucoup sur soit des idées collectives, voilà, le positionnement un peu micro-tactique, d'un ailier qui va être plutôt à l'intérieur, de la symétrie, etc. Mais des choses qui sont intéressantes, mais qui ne font pas gagner des matchs en tant que tel. Et à ce niveau-là, il faut quand même un peu des individualités pour transcender tout ça. Et Iñaki Williams et Iker Muniain font partie de ces joueurs. Iñaki Williams qui est en train de battre la série de matchs disputé consécutivement en Liga. Je crois que depuis 2016, il a joué absolument tous les matchs. Ce sont deux joueurs qui, pour moi, peuvent transcender les choses. Si en plus, tu rajoutes Unai Simon, que je trouve assez intéressant dans son jeu au pied, sur des renversements, etc. C'est tout bête, mais quand le Barça allait chercher haut, le fait que lui puisse assez facilement trouver les liés libres à l'opposé, ça fait partie des trucs qui peuvent te permettre de construire un petit peu plus un banc qui est pas trop dégueulasse. Alors, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a notamment l'ami Asier Villalibre, avec sa tête de Spartiate, qui met le but de l'égalisation à la 90e, qui a joué de la trompette après le match pour fêter la victoire. Qui était quand même un peu là pour la bagarre plus que le foot. Alors dans le côté foot, il marque un but, donc tant mieux, mais c'est lui qui fait expulser Messi et il a passé pas mal de temps à terre. Donc il y a aussi des joueurs un peu bizarres.
Est-ce que c'est le nouveau Gaisca Toquero ouais. qui sort du banc pour faire n'importe quoi un peu?
J'attendais cette remarque et effectivement, il a pas le même look, il a plus un look avec une grande barbe à la Dragowski de la Fio, mais c'est vrai que c'est un peu dans ce l'esprit. Profil-là. Ouais. Où je me demande s'il serait passé pro s'il n'était pas basque, ou en tout cas s'il jouerait en première division s'il n'était pas basque avec ce système très particulier. Mais il y a ça pour dire que le collectif, il n'y a pas non plus beaucoup d'étoiles, mais ne serait-ce qu'avec Mounien Williams plus le jeu de tête de Raúl García, même si encore une fois ça commence à devenir un petit peu difficile pour lui qui a un certain âge, il y a moyen de faire des différences face à des équipes qui refuseront un peu plus le jeu, je pense.
Raphaël, un dernier mot, toujours en reprenant tes notes, sur le, je cite, « bordel de fin de match mis par les Basques ». Christophe a un peu évoqué le cas de Villalibre. Je pense que c'est lui qui était le principal protagoniste.
Ouais, même s'ils s'y sont un peu tous mis, on peut parler de Raúl García aussi, qui connaît bien ça, hein, qui à l'Atlético était un des meilleurs pour faire ça, mais entre les gains de temps, les moments où ça lâchait des petites fautes un peu salaces, où ça tapait dans le ballon. Il y a un moment, je crois que c'est Yeray, mais je suis pas sûr, qui m'a beaucoup fait rire. Et je sais même plus si c'est sur ce match-là, je confonds, mais je pense que c'est sur ce match-là, qui va dégager un ballon en touche et qui va continuer sa course pour taper dans le ballon, puisqu'il n'y a plus de ramasseur de balles, dans le ballon qui était disposé à 5 mètres, pour que le mec puisse pas jouer la touche rapidement en face. Et à ce moment-là, les mecs du Barça regardent l'arbitre et font « Mais il se passe quoi là ? Genre comment on fait si les mecs tapent dans les ballons qui sont posés là pour qu'on puisse jouer ?» Et l'arbitre est dépassé un peu par la situation. Mais tu sentais quand même ce vice dans ces fins de match qui en Espagne est assez commun. Hein. C'est un truc que tu vois d'ailleurs dans toutes les catégories. Et je me rappelle les tournois de jeunes où on voyait les équipes, soit les équipes espagnoles, soit les équipes portugaises débarquer. Il y a 5 coachs sur le banc, et quand il y a une décision arbitrale qu'ils n'aiment pas, les 5 coachs se lèvent et crient. Donc le rôle de l'éducateur dans les pays en Espagne et au Portugal n'est pas exactement le même. Ça avait d'ailleurs fini quasiment en fight entre l'Atlético et Marseille, ou l'Atlético et Porto, je ne sais plus. Mais il y avait eu en tout cas des triangles ou des oppositions qui avaient été assez folles. Et là, du côté de Bilbao, ça a été ça pendant... Je pense à partir du 3-2. C'est-à-dire qu'à partir du 3-2, ça a été assez fou ce qui a été proposé pour gagner du temps. Et les Barcelonais ont fini par craquer à l'image de Messi.
Ça rappelle un petit peu, Christophe, c'est un peu la Super Coupe du vice, puisque l'année dernière, il y avait eu ce fameux tacle de Valverde en dernier exact. Recours pour sauver l'Atlético sur une action de... C'était Carrasco ? Je sais même plus, qui partait au but.
Ouais, sur le Real face à l'Atlético. Il me semble que c'était Carrasco qui est habitué à se faire faucher sur des actions du style. Et oui, super coupe, mais en tout cas, voilà, très intéressant. Peut-être donner les buteurs, tant qu'à faire. Je sais même pas si on l'a donné pour le premier match. Doublé de Griezmann d'un côté, but de Marcos, Villalibre et Lamine Yamal-Williams, qui a mis une lucarne en repiquant depuis son côté gauche pour le 3-2 après prolongation. Mais match sympathique, et bon, on n'en parlera pas, mais la demi-finale de la Real Sociedad face au Barça était vraiment, vraiment très belle. Donc si les gens s'ennuient cette semaine ou ont l'occasion de revoir ce match, parce que la Real Sociedad fait son meilleur match depuis très longtemps, et sans Ter Stegen se qualifier assez facilement, donc ce qui aussi renforce un peu les doutes et les réserves qu'on avait sur certains points du Barça. Alors il y en avait d'autres aussi qui ont émergé sur ce match-là, mais pour dire que c'est pas l'histoire d'un dimanche soir, puisque déjà la présence du Barça en finale est obtenue au tir au but et de manière assez miraculeuse sur ce qui s'était passé sur les 120 minutes précédentes.
Eh bien merci pour cette précision, Christophe, et on passe au dernier match, au dernier débrief. Raphaël, ça va être beaucoup plus rapide, c'est le match entre Liverpool et Manchester United. 1-0-0, où il ne s'est pas passé grand chose et encore moins de choses en deuxième mi-temps. Je sais même pas sur quoi partir. J'ai démarré ce match en étant motivé, en me disant allez, on va voir quelque chose de bien. Il y avait quand même pas mal de monde sur le terrain. Côté Liverpool, il y avait le trio d'attaque, il y avait Firmino, Mané, Salah. Au milieu, il y avait Thiago, Wijnaldum et qui était le troisième, je ne sais plus, puisque Anderson et Fabinho étaient derrière. C'était Shaqiri,
ah oui.
Le troisième milieu de terrain, c'était la petite surprise. Sur les côtés, évidemment, Robertson et Trent Alexander-Arnold, Alisson dans les buts. Et côté United, tant que j'y suis, De Gea dans les buts. Côté gauche, Luke Shaw, dans l'axe, Maguire, Lindelof, à droite, Wan-Bissaka. Au milieu de terrain, on avait un milieu à deux avec McTominay et Fred. On avait Pogba qui était côté droit, Bruno Fernandes dans l'axe, Martial côté gauche et Rashford en pointe. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de ce 0-0 ?
Rien, j'espère que les travaux vont reprendre pour que je puisse pas parler. D'ailleurs, ils ont repris, mais avec les joies du montage, vous ne l'entendrez pas, on espère. Mais non, c'est deux équipes qui n'avaient pas grand-chose à proposer sur ce match. Liverpool qui a enchaîné un troisième match sans marquer et qui s'est contenté de beaucoup centrer. Et ça, c'est... Alors, c'est une force de Liverpool, mais c'est une force quand il est capable de faire autre chose. Parce que sinon, c'est trop prévisible. Et Manchester United, avec Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka et Shaw, a quand même des mecs qui sont capables de défendre ces ballons-là. C'est pas une... Pour le coup, tu peux discuter de l'apport offensif de chacun de ces membres-là. Mais défensivement, ils réalisent une belle saison. Et pour trois d'entre eux, Lindelof, Maguire et Wan-Bissaka, c'est quand même une qualité qu'ils ont, notamment dans le jeu aérien. McTominay, Fred, pareil. Et Liverpool n'a pas réussi à casser l'axe du terrain, à attaquer les demi-espaces, comme je l'avais montré sur Copa Arena, avec Mané et Salah, qui sont très bons généralement dans ces espaces-là. Bon, t'as Firmino, qui est toujours en mode fossoyeur quand même, parce que deux fois, il peut libérer Robertson et il ne le fait pas. Et il a aussi 2-3 frappes où il est mou du genou et il continue d'ailleurs à sous-performer ses expected goals. Là, il a 7 XG, 5 buts cette saison. Donc s'il surperforme de 2 buts au lieu de sous-performer de 2 buts, Liverpool est sans doute leader. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, que ce match finalement ait accouché de pas grand-chose. En face, Manchester était dans son projet habituel quand il joue contre des gros. Et voilà, donc c'était pas très très fun, mais je n'ai pas envie d'incomber la faute à Manchester United parce qu'on savait ce qu'ils allaient faire et qu'en deuxième mi-temps ils avaient eu pas mal d'occasions, plutôt à ce Liverpool qui est en panne d'inspiration malgré Thiago, dont on reparlera, parce que s'il y a un sujet qui reste intéressant malgré tout, c'est son apport et son intégration dans cet effectif.
Mais justement, Christophe, Thiago, on va en parler de suite. On va parler de la facette positive d'abord, c'est ce... sa capacité à amener un peu de créativité à l'intérieur, au cœur du jeu, par sa disponibilité et sa capacité à suivre la circulation du ballon, se rendre disponible dans les bons espaces et permettre ensuite au jeu d'avancer. En première mi-temps, ça a permis à Liverpool d'avoir des phases de jeu intéressantes dans l'axe qui permettaient notamment de libérer un joueur comme Shaqiri assez haut. Shaqiri qui m'a autant frustré que contenté, c'est-à-dire j'étais très content de le voir dans la bonne zone pour recevoir la balle. Mais j'étais aussi un peu frustré de son côté gaucher exclusif qui lui a empêché de déclencher certaines frappes qui seraient sans doute parties s'il avait un pied droit.
Et de sa coupe de cheveux, quelle est ta position ?
Alors, sa coupe de cheveux, je ne l'ai plus forcément en tête, malheureusement.
Bah, écoute, elle est particulière. Moi, c'est non, mais écoute, c'est lui qui la porte, hein, donc c'est à lui de choisir.
Mais du coup, oui, après m'avoir bloqué sur la coupe de cheveux de Shaqiri, qu'est-ce que tu retiens de la performance de Thiago et de ce qu'il a pu apporter à cette équipe avec le ballon ?
C'est terrible, là je suis allé au pressing et c'était difficile de relancer l'attaque. Ouais, ce que je retiens de Thiago, c'est sa première mi-temps déjà, parce que la deuxième... Alors, c'est pas que sa faute, je pense que le fait qu'il soit un petit peu l'un des seuls disponibles au cœur du jeu fait que c'est beaucoup plus facile à éteindre. Et ça revient, je fais mes boucles temporelles habituelles un petit peu, au problème du Barça qui est que bah, t'es obligé de solliciter Griezmann parce que t'as de plus en plus de points noirs, on va dire, qui sont facilement maîtrisés par l'adversaire, donc du coup tu peux pas... Enfin t'es obligé d'inventer un peu des nouveaux circuits, de solliciter des joueurs que t'aurais pas envie de solliciter. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bah, tout le monde côté Liverpool n'est pas forcément apte à vraiment affronter une pression du type de celle qu'a mise Manchester en deuxième période, donc du coup bah c'était un peu trop risqué je pense d'à chaque fois chercher Thiago, donc t'es parti sur des logiques un petit peu plus basique, d'attaquer en U, etc., de délaisser l'axe qui est l'endroit où tu fais le plus de différence, mais où tu prends le plus de risques. Mais en première période, vraiment très disponible, des déplacements de mode reculé, c'est-à-dire il fait aucun sprint de toute la première période, je pense, mais à chaque fois, il vient aider, il étire quand le porteur de balle a besoin de temps et qu'il faut embarquer un adversaire, et au contraire, quand les adversaires sont déjà là et qu'il faut proposer une solution, il se rapproche. beaucoup de gestes. Je sais que c'est le petit kink, Raphaël adore ça dans ses papiers d'équipe, il mettait souvent des screenshots, des gestes des mecs pointant telle direction à occuper, enfin telle direction à faire pour les passes ou telle zone à occuper. Et c'est vrai que Thiago, c'est intéressant de voir que dans une équipe où il est relativement neuf et qui arrivait à jouer sans forcément d'homme de son profil au milieu de terrain, a déjà pris un peu cette dimension d'à chaque fois pointer les zones avec des passes parfois entre guillemets négatives, mais voilà, le latéral là, non me cherche pas, moi je vais peut-être pas réussir à absorber la pression, en tout cas ça va déclencher le pressing, reviens vers le central, etc. Donc là-dessus tu vois déjà ce qu'il peut apporter un petit peu dans une espèce de leadership sur le plan tactique. Il a quand même du déchet, faut le dire, hein. Je pense que c'est l'idée qui est plus intéressante que l'exécution, parce qu'en fait il permet au jeu de plus respirer, parce que du coup ça te fait un relais au milieu de terrain, donc t'es pas enfermé dans des choses un petit peu le long de la ligne de touche. Mais il y a des passes en profondeur qui sont pas suffisamment bien dosées, notamment je crois pour ça là, je ne sais même plus, mais qui peut donner une belle action et où là il est un peu trop forte, même si c'est lui qui l'a créé au départ. Mais voilà, il a, c'est pas du tout les démonstrations que tu peux voir notamment sur la finale de Ligue des Champions. Il y a des, tu vois un petit peu, je pense le manque de rythme, mais c'est clairement ce qui peut apporter de différent à cette équipe de Liverpool. Et la deuxième période, c'est pas lui le problème, c'est simplement que dans une configuration qui finalement revient à ce que Liverpool a souvent connu sur les années précédentes, Liverpool n'a pas su faire la différence. Mais rien que sur la première, voilà, ce côté j'aère le jeu, tu peux me trouver assez facilement et je la redonne, et très bien. Juste fallait pas trop perdre la balle, parce que soit il sortait à contre-temps, soit il arrivait pas à faire le sprint dans l'autre sens pour poursuivre son adversaire direct. Mais dans tous les cas, il était mieux sur l'aspect possession, qui heureusement était généralement à l'avantage de Liverpool.
Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la performance de Thiago ? Parce que c'est vrai que, mis à part ça, c'est difficile de trouver des points intéressants à tirer de cette rencontre.
Non, mais est-ce que, pour rester un peu sur Thiago, avant qu'on passe peut-être à Manchester United, ou je sais pas, enfin, qu'on évite de parler de ce match, ce qui manque encore à son répertoire dans ce Liverpool, c'est dans son jeu axial, c'est ce que j'aimerais voir, c'est les petits ballons qui piquaient par-dessus la défense du côté du Bayern, notamment pour Lewandowski souvent. Et qui serait utile dans ce genre de match où tu as une équipe en face qui va jouer bloc bas ou qui va essayer de t'emmener vers les côtés et défendre des centres. Et j'aimerais bien voir, il faudra trouver des circuits où tu trouves Thiago un peu demi-espace gauche ou moitié gauche du terrain, où il va faire semblant de renverser et finir par piquer ce ballon par-dessus la défense. Mais de trouver ce Thiago-là et d'avoir des courses de Salah, Mané, pourquoi pas Firmino, ou même un latéral à l'opposé, pour trouver cette diagonale, ce ballon piqué par-dessus la défense, mais vers le chemin du but. Et ça, je pense que ça peut vraiment être une arme en plus pour Liverpool. Henderson sait piquer ces ballons-là, mais quand ils sont plus longs, il sait bien aussi faire le centre deuxième poteau quand le ballon vient de la droite, pour un peu ce que faisait Eriksen du côté de Tottenham. Mais le petit ballon de 10-15 mètres piqué par-dessus la défense pour trouver un joueur lancé contre un bloc bas, qui était important pour le Bayern et pour Thiago, je pense qu'il sera utile à Liverpool dans ce genre de match.
Ouais, Christophe, t'évoquais aussi sa capacité à frapper de loin. Il tente sa chance en deuxième mi-temps, une fois, je crois. Je crois que Des Real sort, il me semble.
Ouais, c'est ça, il partait bien vers la lucarne droite de Des Real. Ouais. Enfin, droite pour Des Real. Ouais, je l'évoquais dans le... Je shortcut ta question. Je l'évoquais entre nous, pas dans l'émission, mais quand je regardais le match hier au milieu de la nuit. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, cette frappe-là dément un petit peu mon idée de base, qui était qu'en première période, je le vois deux fois... de mémoire vraiment attaquer l'espace, et je me dis si c'est un mec de l'Atalanta, il frappe, alors je vais pas dire qu'il y a but, hein, mais ça me semblait plus intéressant parfois que de chercher un relais, alors que si tu continues à porter la balle, tu te retrouves à 20 mètres, et je trouve que c'est un endroit, autant à 25 mètres, t'as quasiment aucun but, autant je trouve que sur la zone, on va dire 15-20 mètres, l'espèce d'entrée de surface, il y a quand même finalement pas mal de frappes qui sont assez dangereuses et où bien placé ça termine au fond. Et il y a plusieurs fois où il a un peu refusé. Alors au final, il en tente une en deuxième qui part très bien. Il en tente une deuxième qui part en touche ou pas loin, en tout cas, qui est totalement dévissée. Mais c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que pour, on va dire, représenter une menace, pour faire une comparaison NBA, le fait de temps en temps tirer à 3 points pour forcer la défense à sortir sur toi et t'ouvrir des espaces pour ensuite faire d'autres choses. C'est vrai que ça peut être pas mal, et c'est un truc que je sais pas si c'est un reproche, hein, mais que des Iniesta ou autres n'ont jamais trop exploité. Ils arrivent à faire des différences autrement, hein, mais quand ils arrivaient à 20 mètres, il n'y a pas forcément cette notion de frappe. Je pense que ça peut vraiment être utile à cette équipe de Liverpool parce que c'est beaucoup plus dans la philosophie locale et que les relais, quand t'as un Firmino à ce niveau-là, il faut parfois oublier un petit peu la notion de faire jouer et beaucoup plus tenter parce que j'ai quand même l'impression que cette équipe de Liverpool qui a énormément de talent, mais tu vas devoir être beaucoup plus direct ou alors dans la, comme disait Raphaël, la recherche vraiment de la passe qui tue. Qu'au Bayern où tu pouvais beaucoup plus faire vivre parce que Thomas Müller c'était toujours je remets en une touche. Là je pense qu'il faut être un tout petit peu plus tranchant soit par la passe soit par le tir, mais c'est entre guillemets du détail. Et si tu rajoutes on va dire la panoplie de Thiago qui est encore pas utilisée, la panoplie de Naby Keita qui n'est jamais vraiment utilisée parce qu'il est blessé 3 semaines sur 4, mais c'est plus une question de est-ce que ces joueurs-là vont réussir à monter suffisamment en puissance et suffisamment enchaîné pour montrer tout ce qu'ils sont capables de faire qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas de doute sur, je pense, si tu prends tous les profils capables d'être alignés dans ce milieu à 3, je pense que là maintenant, Liverpool, en tout cas sur le papier au début de saison, si tout le monde est apte, ça coche à peu près toutes les cases et c'est presque plus sur la ligne de 3 où tu peux avoir des incertitudes sur quand Jota est blessé et que Firmino est pas au top niveau, qu'est-ce qui se passe, ou si Salah Mané se pète, qu'est-ce qui se passe, parce que derrière t'as peut-être pas ce même alliage de profondeur, finition, etc. Mais sur le milieu de terrain, dans l'absolu, il y a quand même beaucoup de choses.
Raphaël, un petit mot sur Manchester United avant de tourner la page de ce match. Tu disais tout à l'heure que c'était le plan habituel de United contre les gros. On est là pour prendre un point et puis voilà. Et j'ai leur bilan contre les gros sous les yeux depuis le début de la saison. Alors il y a eu une défaite 6-1 contre Tottenham en tout début de saison. Et ensuite c'est 0-0 contre Chelsea. Bon, il y a eu une défaite contre Arsenal, mais est-ce que c'est encore un gros aujourd'hui ? On peut se poser la question. Ensuite, 0-0 contre Manchester City à la mi-décembre, 2-2 contre Leicester, qui est toujours top 4, et donc 0-0 contre Liverpool aujourd'hui. Et entre-temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de points pris face aux autres équipes justement du championnat, avec dernièrement une série de 3 victoires d'affilée face à Wolverhampton, Aston Villa et Burnley, même si c'était des victoires assez courtes. Est-ce que Solskjaer peut aller au bout comme ça ?
Bah, cette saison, oui. Puisque tu regardes où tous les championnats, la moyenne pour être premier, c'est à peu près 2 points, 2,2 points. C'est-à-dire qu'en première ligue, la Manchester est premier avec 37 points en 18 matchs, pardon. Ouais. Donc c'est un peu légèrement au-dessus des 2 points. L'Inter est premier avec 40 points en 18 matchs en attendant le match de l'AC Milan. En Liga, l'Atlético est premier avec 41 en 16. Là, ils sont un peu au-dessus, eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont largement en tête et que leur match en retard peut leur permettre de vraiment prendre une grosse avance. En Bundesliga, le Bayern est premier avec 36 en 16, ce qui est un peu au-dessus des 2 points, mais qui est très faible pour le Bayern, qui habituellement est bien plus haut que ça, en tout cas ces dernières saisons. Et en Ligue 1, en Ligue 1, 42 en 20 points pour le PSG, 42 en 20 aussi pour Lille. Donc là, Manchester est sur un rythme de croisière qui peut lui permettre d'être champion cette saison-là. La question que je me pose, c'est combien de temps ça va durer contre les petits, si les petits progressent un peu ? Parce que là, le match qu'ils font contre Liverpool, alors en deuxième mi-temps, ils ont des occasions. Hein. Pogba peut faire gagner le match, Bruno
ouais.
aussi a une belle
Pogba
occasion.
Pogba et Bruno, ouais. C'est ça.
En deuxième, Manchester United a plus d'occasions et est meilleur que Liverpool. Mais c'est une équipe, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qui est aussi bonne que sa meilleure individualité ou le mec qui serait le meilleur ce jour-là. Et là, t'as un Bruno qui rate son occasion et qui n'est pas inspiré dans la passe, donc tu marques pas. Et je crois qu'il finit à 58% de passes réussies. À peu près, enfin j'avais vu la stat, elle m'avait marqué quand je l'ai vu passer sur.
C'était un peu une caricature, j'ai trouvé un Bruno. Aucune conservation sous pression, on cherche toujours en profondeur. Alors dans le plan de United, ça peut suffire, mais il y a des fois je me disais tiens, en première mi-temps notamment, calme un peu parce que là du coup tu la balances direct en profondeur et ça revient aussi vite que c'est parti quoi.
Ouais, après le match où au moment c'est parti en mode transition, je pense que ça pouvait plaire à Manchester United. Donc quitte à perdre les ballons autant que ça t'amène vers.
Ouais, en deuxième je trouve ça plus pertinent. Ouais.
C'est 60% de passes réussies, Fernandez, Pogba c'est 59, Rashford c'est 59. Donc voilà. Donc soit ces mecs-là sont bons et Manchester gagne, soit ils sont moyens. Là, Bruno, il tente que des passes vers l'avant, il n'a qu'une seule occasion créée. Il a quand même 4 tirs, mais dont un coup franc qui passe pas loin. Voilà, donc c'est cette équipe-là et on n'a rien de nouveau à dire sur eux parce qu'il n'y a pas, dans ces matchs-là encore moins, il n'y a pas d'autre chose que trouver nos mecs qui sont doués devant et espérer qu'ils fassent quelque chose ensemble ou tout seul qui va te permettre de marquer. Là, ils ont réussi à faire deux actions ensemble où ils auraient pu marquer. qui était plutôt bien construite en plus, notamment celle où Bruno marque, enfin un peu marqué sur un centre en retrait de Luke Shaw, avec Rashford je crois qu'il le décale face à Alexander-Arnold. Donc ça peut être en champion hein, cette année quand tu vois le rythme que ça a. Par contre, vu comment City revient, je pense que si City déconne pas et si Liverpool se relève pas, je vois pas United suivre le rythme de City qui là est sur des stats depuis quelques semaines, et notamment des stats défensives assez improbables.
Ah, j'ai ouais, sous les yeux, c'est lunaire.
Enfin, ouais, lunaire juste mais... petite avant d'avoir les stats sur City, juste le calendrier d'United dans les jusqu'à fin février et un match face à Chelsea. Ils font Fulham, Sheffield, Arsenal, Southampton, Everton, West Brom et Newcastle. Peut-être que s'ils font carton plein, ils prendront un peu plus d'envergure, mais c'est sûr que s'ils laissent filer des points là-dessus, justement, Manchester City aura peut-être l'occasion de passer devant. Christophe, quelles sont ces statistiques défensives de Manchester City ?
Alors les premières, je les ai en tête puisqu'elles seront dans le Banquet Cop Arena qui sera publié dans quelques heures après l'enregistrement, et peut-être que le podcast ne sera pas en ligne, que le banquet le sera déjà sur Copa, mais en gros c'est tous les matchs où Ruben Dias et John Stones ont été alignés ensemble. T'as 10 matchs ensemble, 9 victoires, 1 nul, 1 but encaissé en 10 matchs, et c'est le but d'Hudson-Odoi à la 92e contre Chelsea, donc un but anecdotique où en plus ils sont pas directement impliqués puisque Ederson ne sort pas et Zinchenko est devancé au deuxième poteau. Donc ça c'est pour la statistique non avancée. Et sur les stats avancées, si tu regardes les derniers matchs, les expected goals contre, donc voilà, vraiment voir ce que t'as laissé à l'adversaire. Ce week-end, face à Crystal Palace, il laisse 0,05, Brighton 0,18, Chelsea 0,69, Newcastle 0,20, Southampton 0,59, West Brom 0,21, Manchester United 0,59, Fulham 0,29, Burnley 0,42. Donc voilà, c'est-à-dire le fait de pas prendre de but, en plus ça a l'air d'être quelque chose qui est lié à la structure et à la manière dont cette équipe réussit à casser les offensives adverses en amont et à monopoliser le ballon, plus que par des exploits du gardien ou la maladresse des attaquants. Donc si tu collerais ça au fait que même si cette équipe se crée moins de situations offensives, elle arrive quand même à marquer ses buts, ça donne quand même un visage où je pense que City ne perdra plus beaucoup d'ici la fin de saison, et en fait ça se jouera sans doute plus limite sur sa capacité à créer que sur la menace qu'il y avait notamment sur la première saison de Guardiola, à savoir que dire chaque semaine tu pouvais risquer de tomber face à l'adversaire qui te mettra 3 transitions et qui te mettrait 3-0 quoi.
Ouais, on a du Guardiola qui se retrouve avec des stats dignes de Simeone, c'est quand même très bizarre comme première ligue en 2020-2021. On a fait le tour, je pense, pour cette semaine, donc on va passer directement au Paris avec notre partenaire PMU.fr.
PMU vous présente la séquence prono.
Les paris, alors je ne sais même plus quels étaient les paris la semaine dernière. Je crois que j'ai fait 0 sur 2 personnellement.
J'ai fait 0 sur 2 aussi, Florent.
Et ben voilà, c'est parfait. Ben Raphaël, tu vas être le premier à essayer de te rattraper. En nous parlant de ton premier pari, toi tu es entre la France et la Première Ligue. On va démarrer par la France vu qu'on n'a pas parlé de Ligue 1 encore dans cet épisode.
Oui, et j'ai décidé en fait cette fois de partir sur la même idée pour mes deux matchs et de me dire s'il y en a un qui passe, je serai gagnant, sachant que j'ai pas vraiment d'avis fondé sur mes paris, parce que comme d'habitude, vous le savez, je n'ai pas une argumentation très bonne sur les paris, je suis assez catastrophique. Il y a une seule compétition qui me réussissait, c'était l'Europa League, où j'avais des bonnes stats, mais bon, là pour l'instant il n'y en a pas encore, donc je mange mon pain noir. Le premier match c'est Rennes-Lille. Match qui devrait être sympa d'ailleurs, Rennes dont on n'a pas trop parlé dans Vue du Monde ces derniers temps, mais qui avait fait un très bon match contre Lyon, et vous pouvez d'ailleurs lire le débrief de Florent sur Coparena où il explique en quoi Rennes a été très bon. J'ai aussi une petite extrait que je passerai peut-être sur Twitter si j'ai pas peur qu'on fasse sauter mon compte. Je sais pas où en sont les droits aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de mettre des extraits de matchs, est-ce qu'on a le droit de diffuser les matchs, c'est un peu tout et n'importe quoi en ce moment. Rennes-Lille, je pars sur un match nul, c'est à 3-0-5. Parce que je pense qu'actuellement, c'est des équipes qui sont à peu près du même niveau. Lille a galéré à battre Reims et Rennes a fait des bons matchs récemment. S'est imposé à Brest, dans la douleur, certes. Mais entre ce qu'ils ont fait contre Lyon et leurs résultats récents, je pense que c'est deux équipes qui se ressemblent, en tout cas en termes de qualité de jeu. Et je vois pas une des deux équipes vraiment supérieure à l'autre actuellement. Donc je pars sur un match nul à 3-0-5 en me disant qu'en plus, le côté domicile extérieur n'existe plus vraiment. Donc tu es quasiment sur terrain neutre, autant que ce soit un résultat neutre.
Deuxième pari, direction l'Angleterre, et un autre choc d'ailleurs, entre Leicester et Chelsea.
Oui, ou là pour le coup, je pense que c'est deux équipes qui collectivement sont pas aussi fortes l'une que l'autre, mais Chelsea compense avec des individualités de qualité supérieure, en tout cas plus nombreuses et plus riches que Leicester, qui a des très bons joueurs, mais qui a peut-être moins de bancs et moins de solutions. Chelsea qui a gagné à Fulham sans briller, qui avait été complètement dominé par Manchester City lors du match précédent. Bon, voilà, c'est toujours la même chose à peu près avec Lampard, et c'est marrant d'ailleurs de se souvenir que le premier match de la saison de Lampard l'an dernier, je crois qu'il prend 4-0 contre le Manchester de Solskjaer, quelque chose comme ça, mais le match est un peu faussé, Chelsea était meilleur, et on disait que Manchester gagnait grâce à ses individualités, c'est toujours le cas, mais par contre Chelsea n'a pas montré le collectif qu'il avait laissé apercevoir au tout début de la période Lampard, ça c'est assez décevant. Et du côté de Leicester, une équipe qui est d'ailleurs à peu près dans les mêmes eaux que Chelsea. Chelsea a des meilleures stats avancées, mais ils ont toutes les deux équipes ont 33 buts marqués et 21 buts encaissés. Leicester qui a fait un bon match contre Southampton, qui a gagné 2-0 et qui avait gagné contre Newcastle, mais qui a du mal à battre régulièrement les gros. Ils ont fait 2-2 contre Manchester, alors ils avaient battu Tottenham, ils avaient perdu 3-0 contre Liverpool, ils s'étaient fait totalement dominer, ils avaient galéré contre Arsenal et gagné 1-0, et en début de saison, il y avait eu ce match fou contre City, 5-2, mais Rodgers n'est pas ultra fiable contre les gros non plus, donc je pars sur un match nul. Là, je crois que la cote est un peu supérieure, Florent, tu me confirmeras ou pas, je ne sais pas si tu l'as devant les yeux, je pense que c'est un peu plus que 3-0-5.
Ouais, 3-50.
3,50, voilà. 3,05 et 3,50. Donc s'il y en a un des deux qui passe, ça me suffit à être en positif sur le week-end, et ce serait bien, il serait temps
en effet. Christophe, toi tu pars en Allemagne pour ton premier pari.
Ouais, pour commencer, un match Fribourg-Francfort où je mise sur la victoire de Francfort à l'extérieur à 2,60. J'ai vu une partie des matchs du week-end des deux équipes, l'une a gagné, l'autre a perdu. Fribourg que donc je mettrais perdant, a perdu 2-1 sur le terrain du Bayern, mais ça passe pas très loin, déjà parce qu'il y a un partout à la, je crois, 65-70e, par là, avec un retour au score, mais surtout parce qu'il y a deux occasions d'égaliser en toute fin de match, de Nils Petersen, qui notamment touche la barre à la 91e, d'ailleurs c'est rigolo, la neige tombe, puisqu'il avait neigé, donc du coup le fait de fracasser la barre a fait que la neige est tombée, comme quand on agite un sol pleureur sous la pluie. Donc Fribourg était pas mauvais, malgré tout je pense que cet effort physique peut se payer quelques jours plus tard, alors c'est un petit peu bête, mais c'est vrai que tu peux avoir quand même cette tendance à la décompression, sachant que je crois que les matchs de Raphaël, enfin j'ai pas trop la temporalité, mais ce match-là est mercredi 20h30, donc du coup ça enchaîne assez vite, c'est pour ça que je prends en compte ce point physique, décompression, etc. Et surtout, de l'autre côté, Francfort a battu Schalke 3-1 avec le retour en forme de Luka Jovic, sur qui je m'interrogeais, sur le gabarit, sur ce qui pouvait ressembler à une prise de poids. Alors je pense que le maillot blanc du Real ne l'avantageait pas, peut-être qu'il était un peu plus moulant aussi, mais ce que j'ai trouvé beaucoup moins gros, alors il était pas gros objectivement, hein, mais beaucoup moins costaud, on va dire, pour un footballeur, hormis Andrea Petagna, du côté de Francfort, avec un maillot noir. Donc je sais pas s'il a perdu un petit peu ou si c'est la couleur du maillot, mais il rentre à la 60e, il marque 2 buts, soit à peu près autant je crois qu'avec le Real en championnat en 1 an et demi, le premier d'une volée dans la surface, c'est le deuxième sur une course en profondeur où il prend l'espace, il est pas rattrapé par le défenseur, il fait crochet et il frappe. Donc autant le premier est assez logique vu ses caractéristiques, autant le deuxième me donne l'idée quand même d'un joueur qui aurait la forme physique, puisque même s'il est plus frais que le défenseur, il arrive à se mouvoir dans l'espace de manière assez rapide. Donc si tu prends le fait que... En fait, pour moi, c'est vraiment le facteur décisif, et puis Francfort est vraiment en train de bien revenir. Cette équipe-là, elle est 7e actuellement avec 26 points, à seulement 3 points par exemple du Bayer Leverkusen qui est 3e. Donc du coup la dynamique est bonne, ils sont passés devant Fribourg qui est maintenant 9e. Donc je pense que c'est une vraie équipe à suivre, parce que faut pas oublier que c'était quand même un demi-finaliste quasiment à une séance de Turbo de près, finaliste d'une Ligue Europa il y a 2 ans, et que les principes et l'entraîneur n'ont pas changé. Donc je pense qu'avec le retour de Jovic, ça peut faire de belles choses, et ça commencera donc par cette victoire à 2,60 à Fribourg.
Et deuxième pari, direction l'Espagne avec l'Atlético Madrid sur la pelouse d'Eibar.
Ouais, là, beaucoup plus de risques, en tout cas, beaucoup moins de certitudes dans ce pari-là, mais je me dis pourquoi pas. Donc ça, c'est jeudi 21h30, horaire espagnol, toujours un petit peu folklorique, la réception de l'Atlético Madrid pour Eibar. Mon pari va un petit peu à contre-courant du projet Atlético Madrid. C'est une victoire avec 2 buts d'écart minimum. Atlético Madrid -1 à 2,70. Donc, ce qui voudrait dire que l'Atlético arrête de gagner tous ses matchs 1-0, ce qui est quand même assez souvent le cas. Mais je suis pas convaincu par la régularité d'Eibar, en premier lieu. C'est une équipe qui est en bas de tableau en Espagne, qui presse beaucoup, mais qui peut avoir des trous d'air, qui a d'ailleurs perdu alors à la fois le dernier match de championnat sur le terrain de Levante, mais ça limite pourquoi pas, mais qui surtout a perdu contre une équipe de Segunda B ce week-end en coupe, 3-1, donc ce qui démontre une forme moyenne, on va dire ça, même si l'Atlético a aussi perdu contre une Segunda B en coupe, mais là je pense que ça ne les dérangeait pas tellement. Je me dis que l'Atlético peut quand même de temps en temps gagner des matchs par 2 buts d'écart, et c'était d'ailleurs le cas sur le dernier, où il y a une victoire 2-0 en championnat face à Séville. Beaucoup plus de repos pour cette équipe-là, qui du coup est éliminée en coupe, n'a pas joué, qui est sur une série de victoires, et puis encore une fois, je le disais, victoire 1-0, c'est, on va dire, c'est quand même un petit peu caricatural, dans la mesure où, bien sûr, il y en a beaucoup, objectivement, mais si tu regardes les derniers matchs de championnat de l'Atlético, il y a 2 buts d'écart contre Séville, 1 contre Alavés Retafé, 2 buts d'écart contre la Real Sociedad, 2 buts d'écart contre Elche sur les dernières journées, et puis t'en avais aussi 2 buts d'écart contre Valladolid, avec juste le match contre le Real perdu qui était intercalé, donc bref. Il y a quand même pas mal de 2-0, 3-1 dans le lot. Le fait de gagner avec 2 buts d'écart face à une équipe d'Eibar qui laisse des espaces puisqu'elle presse beaucoup et qui peut être amenée à essayer vraiment de tout faire pour marquer le 1 partout si jamais l'Atlético mène et du coup se prendre un but en contre de João Félix ou autre, pourquoi pas. Surtout que la cote, je trouve, est plutôt bien payée, hein, 2,70 sur un rapport de force aussi déséquilibré. Je me dis, allons-y, soyons fous.
Eh bien, merci Christophe, merci Raphaël. De quoi peut-on parler pour terminer cet épisode? On peut parler de la création de notre chaîne Twitch, twitch.tv/vue du banc, où on fera d'ici quelques temps, le temps de prendre en main le logiciel, le streaming, etc. On découvre tout ça, c'est pas de notre âge à la base, donc on rentre petit à petit, mais c'est là qu'on va faire nos prochaines FAQ. Que nos patrons attendent avec impatience, mais qui
seront... connaissaient déjà, oui.
Ils connaissaient déjà et attendent surtout, ils attendent leur retour assez impatiemment. Donc voilà, ça va venir dans les prochaines semaines, et en attendant, évidemment, pour nous retrouver beaucoup plus régulièrement, quasi quotidiennement, ça se passe sur Coparena, coparena.com, pour vous inscrire, 3,99€ par mois, des articles, des émissions audio, et plein d'autres choses, plein de surprises, là, cette semaine... On avait une interview de Ludovic Butel et j'en ai pas parlé en introduction, mais il y a aussi un nouveau format, une nouvelle émission qui va arriver dans les jours qui viennent. Donc voilà, tout simplement une nouvelle émission. Ça arrive, c'est bientôt dans Coparena. En attendant, eh ben on vous dit à la prochaine. Salut.
Ciao.
Cordialement.
Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.